Cette nuit, je me suis de nouveau rappelé le petit livre vert que je dois avoir possédé autrefois lorsque j'étais enfant. Et je ne sais pourquoi je m'imagine qu'il devait provenir de Mathilde Brahe. Il ne m'intéressait pas lorsque je le reçus et je ne le lus que plusieurs années après, je crois, durant mes vacances à Ulsgaard. Mais dès le premier instant, il prit pour moi de l'importance. Il était plein de rapports, même considéré de l'extérieur. La couleur verte de la reliure avait un sens, et l'on comprenait aussitôt qu'au-dedans, il devait être tel qu'il était. Comme si cela avait été concerté, apparaissait d'abord la page de garde, lisse et moirée blanc sur blanc, puis la page de titre que l'on tenait pour mystérieuse. Il eût pu sans doute s'y trouver des images, semblait-il, mais il n'y en avait point. Et bon gré mal gré, l'on devait accorder que ceci encore était dans l'ordre des choses. On était en quelque sorte dédommagé de cette déception, en trouvant un signet mince qui, friable et posé un peu de biais, touchant dans son illusion confiante d'être encore rose, était resté, Dieu sait depuis combien de temps, entre les mêmes pages. Peut-être ne s'en était-on jamais servi, et le relieur l'avait replié avec un soin pressé, sans même le regarder de près. Peut-être aussi n'était-ce pas par hasard. Il se pouvait que quelqu'un eût en cet endroit cessé de lire, qui ne l'eût plus jamais. Que la destinée à cet instant eût frappé à sa porte pour l'occuper, et qu'il fût emporté loin de tous les livres, qui, somme toute, ne sont quand même pas la vie. On eût pu dire si le livre avait été ensuite encore lu. On pouvait supposer aussi qu'il s'agissait simplement de l'ouvrir à cette page-là, toujours de nouveau, et que c'était arrivé parfois, même très tard dans la nuit. Quoi qu'il en soit, j'avais peur de ces deux pages, comme d'un miroir devant lequel une personne est debout. Je ne les ai jamais lues, je ne sais même pas si j'ai lu le livre tout entier. Il n'était pas très épais, mais on y trouvait quantité d'histoires, surtout l'après-midi. Alors il y en avait toujours une que l'on ne connaissait pas encore. Je ne me souviens que de deux, je veux dire lesquelles, la fin de Grisha Otrebjov et la chute de Charles le Téméraire. Dieu sait si elles me firent alors une impression profonde. Maintenant encore, après tant d'années, je me rappelle une description. Comment le faux tsar avait été jeté parmi la foule et resta étendu 3 jours durant, déchiqueté et criblé, un masque sur le visage. Il est évident que je n'ai aucune chance de retrouver jamais ce petit livre, mais ce passage doit avoir été singulier. J'aurais envie aussi de relire le récit de la rencontre avec la mère. Il doit s'être senti très sûr de lui pour qu'il l'ait fait venir à Moscou. Je suis même convaincue qu'à cette époque, il avait en lui une foi si forte qu'il crut en effet convoquer sa mère. Et cette Marie Nagua, qui en étape rapide vint de son cloître indigent, n'avait-elle pas tout à gagner si elle disait oui? Mais l'incertitude d'Otrepchov ne commença-t-elle pas lorsque cette étrangère l'eut reconnue? Je ne suis pas éloignée de croire que la force de sa transformation ait consisté à n'être plus le fils de personne. Cela, c'est finalement la force de tous les jeunes gens qui sont partis. Le peuple qui le souhaitait, sans imaginer quelqu'un de précis, ne rendait que plus libre et plus infinie ses possibilités. Mais la déclaration de la mère, même comme tromperie consciente, avait encore le pouvoir de le diminuer. Elle l'enlevait à la plénitude de son invention. Elle le condamnait à une imitation lassante. Elle le rabaissait au niveau de cet être qu'il n'était pas. Elle faisait de lui un imposteur. Et voici que venait encore cette Marina Mnisek, qui, plus insensiblement dissolvante, le niait à sa manière, en croyant, ainsi qu'il apparut plus tard, non en lui, mais en chacun. Je ne puis, bien entendu, garantir dans quelle mesure tout ceci était pris en considération dans cette histoire. Ceci, me semble-t-il, il eût fallu le raconter. Mais indépendamment de cela même, cet événement ne serait nullement vieilli. On pourrait à présent imaginer un conteur qui consacrerait beaucoup d'attention aux derniers instants. Il n'aurait pas tort. Ils contiennent une foule de choses. Comment tirer du sommeil le plus intérieur? Il saute à la fenêtre et par-dessus la fenêtre au milieu des sentinelles. Il ne peut se relever seul. Ils doivent l'aider. Sans doute la jambe est-elle cassée? Soutenu par deux de ses hommes, il sent qu'il croit encore en lui. Il se retourne, les autres aussi croient en lui. Il a presque pitié d'eux, ces Strelitz géants. Jusqu'à quel point les choses en sont-elles venues? Ils ont connu Ivan Grosnich dans toute sa réalité, et ils croient en lui. Il serait presque tenté de les tirer d'erreur, mais ouvrir la bouche serait crier. La douleur s'élance dans son pied avec fureur, et il fait si peu de cas de lui en cet instant qu'il ne sait plus rien que la douleur. Et puis, il n'a pas le temps. Il s'approche de lui en se poussant. Il voit le Schwyzkij, et derrière lui tous les autres. Bientôt tout sera passé. Mais alors ses gardes se referment autour de lui. Il ne l'abandonne pas, et un miracle a lieu. La foi de ces vieux hommes se propage, tout à coup plus personne ne veut s'avancer. Schwyzkij, tout près d'Otrepchov, appelle désespérément vers une fenêtre d'en haut. Le faux tsar ne se retourne pas, il sait qui est debout là-haut. Il comprend que le silence se fasse, un silence subi, sans transition. À présent la voix va venir, cette voix qu'il connaît d'autrefois. Cette haute voix fausse qui se force. Et alors, il entend la mère tsarine qui le renie. Jusqu'ici, les choses vont d'elles-mêmes, mais à présent, je vous en prie, un conteur, car des quelques lignes qui restent à écrire, une force doit jaillir qui dépasse toutes les contradictions. Que ce soit dit ou non, on doit pouvoir jurer qu'entre le son de la voix et le coup de pistolet, il y eut encore en lui, infiniment comprimé, la volonté et le pouvoir d'être tout. Sinon, on ne comprendrait pas l'éclat magnifique de cette conséquence. Qu'ils aient transpercé son vêtement de nuit et les piqué de toutes parts, comme pour atteindre le noyau dur d'une personne. Et que dans la mort encore, il ait porté 3 jours durant le masque auquel il avait déjà presque renoncé. Lorsque j'y songe à présent, il me semble singulier que dans ce même livre fût contée la fin de celui qui toute sa vie durant fut un, le même, dur et inchangeable comme un granit, et qui toujours plus lourdement pesa à ceux qui le supportaient. Il y a un portrait de lui à Dijon, mais on sait sans cela qu'il fut trapu, rablé, têtu et désespéré. Aux seules mains, on n'eût peut-être pas pensé. Ce sont des mains par trop chaudes, qui voudraient toujours se rafraîchir, et qui se posent involontairement sur des objets froids, les phalanges écartées, avec de l'air entre tous les doigts. Dans ces mains, le sang pouvait se précipiter comme il vous monte à la tête. Et quand elles faisaient le point, elles étaient vraiment comme des têtes de fous, délirant d'extravagance. Il fallait des précautions incroyables pour vivre d'accord avec ce sang. Le duc était enfermé avec lui, et parfois il en avait peur, lorsqu'en soi il le sentait tourner, rampant et sombre. À lui-même semblait terriblement étranger ce sang rapide, demi-portugais, qu'il connaissait à peine. Souvent il avait peur que son sang ne pût l'attaquer durant son sommeil et le déchirer. Il faisait semblant de le dompter, mais il était toujours debout dans sa peur. Il n'osait jamais aimer une femme pour que son sang ne devînt pas jaloux. Et le cours en était si emporté que jamais aucun vin ne franchit les lèvres du duc. Au lieu de boire, il l'apaisait par des confitures de roses. Pourtant, un jour, il but, au camp de Lausanne, lorsque Grandson fut perdu. Alors il était malade et abandonné, et il but beaucoup de vin pur. Mais alors son sang dormait. Durant ces dernières années vides de sens, son sang tombait parfois dans ce lourd sommeil bestial. Alors on vit combien le duc était au pouvoir de son sang, car lorsque celui-ci dormait, le duc n'était rien. Alors personne de sa suite n'avait le droit d'approcher. Il ne comprenait pas ce qu'on disait. Aux envoyés étrangers, il ne pouvait se montrer, vide et morne qu'il était. Alors il était assis et attendait que son sang s'éveillât. Et le plus souvent, son sang sursautait tout à coup, s'échappait de son cœur et hurlait. Pour l'amour de ce sang, il traînait avec lui tant d'objets dont il ne faisait aucun cas. Les 3 grands diamants et toutes les pierres précieuses, les dentelles flamandes et les tapis d'Arras par monceaux. Sa tente en soie avec les cordons en fil d'or et 400 tentes pour sa suite, et des images peintes sur bois, et les 12 apôtres en argent massif, et le prince de Tarente, et le duc de Clèves, et Philippe de Bade, et les messieurs de Château-Guyon, car il voulait persuader à son sang qu'il était empereur et qu'il n'y avait rien au-dessus de lui, afin de s'en faire redouter. Mais son sang ne le croyait pas malgré toutes les preuves que le duc lui fournissait. C'était un sang méfiant. Peut-être l'entretint-il quelque temps en doute, mais les corps du riz trahirent le duc. Depuis lors, son sang savait qu'il habitait un homme perdu, et il voulait en sortir. À présent, je le vois ainsi, mais autrefois j'étais surtout saisie en lisant comment ils le cherchèrent le jour des 3 rois. Le jeune prince Lorrain, qui était entré la veille, après cette bataille singulièrement précipitée dans sa pauvre ville de Nancy, avait éveillé très tôt sa suite et demandé à voir le duc. Un messager après l'autre fut envoyé, et lui-même apparaissait de temps à autre à la fenêtre, inquiet et soucieux. Il ne reconnaissait pas toujours qui il transportait là, sur leurs chars et leurs civières. Il voyait seulement que ce n'était pas le duc. Et parmi les blessés non plus, il n'était pas. Et des prisonniers que l'on amenait sans cesse, nul ne l'avait vu. Mais les fuyards portaient de tous côtés des nouvelles différentes. Ils étaient troublés et effrayés comme s'ils avaient craint de courir à sa rencontre. La nuit tombait déjà et l'on n'avait rien entendu de lui. La nouvelle qu'il était disparu avait le temps de faire le tour de cette longue soirée d'hiver. Et où qu'elle parvint, elle donnait à tous une certitude brusque et exagérée qu'il vivait encore. Jamais peut-être le duc n'avait été comme en cette nuit, vivant dans toutes les imaginations. Il n'y avait pas de maison où l'on ne veillât pas, où on ne l'attendît pas, et où l'on ne se représenta pas qu'il allait frapper. Et s'il ne venait pas, c'est parce qu'il était déjà passé. Il gela cette nuit, et ce fut comme si gelait aussi la pensée qu'il était encore, si grande était sa dureté. Et des années passèrent avant qu'elle se fût défaite. Tous ces hommes, sans bien le savoir, à présent voulaient obstinément qu'il fût. Le destin dont il les avait frappés n'était supportable que par sa présence. Ils avaient eu tant de mal à apprendre qui il était. Mais à présent qu'ils le savaient par cœur, ils découvraient qu'il était facile à retenir et qu'ils ne l'oublieraient plus. Mais le lendemain matin, 7e jour de janvier, un mardi, on se remit cependant à sa recherche. Et cette fois, il y avait un guide. C'était un page du duc et l'on prétendait qu'il avait vu de loin tomber son maître. À présent, il devait désigner l'endroit. Lui-même n'avait rien raconté. Le comte de Campo Basso l'avait amené et avait parlé pour lui. À présent, il marchait en avant et les autres se tenaient tous derrière lui. Quiconque le voyait, bizarrement affublé et incertain, avait peine à croire qu'il était vraiment ce Gian Battista Colonna qui était beau comme une jeune fille et fin des chevilles. Il tremblait de froid. L'air était rigide du gel nocturne. On entendait comme un grincement de dents sous les pas. D'ailleurs, tous avaient froid. Seul le fou du duc, surnommé Louis XI, se donnait du mouvement. Il jouait aux chiens, courait en avant, revenait et trottait un instant à quatre pattes, à côté du page. Mais dès qu'il apercevait de loin un cadavre, il y courait, s'inclinait, et l'exhortait à faire un effort et à être celui qu'on cherchait. Il lui laissait un peu de temps de réflexion, puis il revenait vers les autres, de mauvaise humeur, et menaçait et jurait et se plaignait de l'entêtement, de la paresse des morts. Et l'on allait toujours, et cela ne prenait pas fin. La ville n'était presque plus visible, car dans l'intervalle, le temps s'était fermé, malgré le froid, et il était devenu gris et opaque. Le pays était couché, plat et indifférent, et le petit groupe des hommes semblait toujours plus égaré à mesure qu'il s'éloignait davantage. Personne ne parlait. Seule, une vieille femme qui avait couru derrière eux ruminait quelque chose en secouant la tête. Peut-être priait-elle. Soudain, le premier de la petite troupe s'arrêta et regarda autour de lui. Puis il se retourna brièvement vers Lupi, le médecin portugais du duc, et montra quelque chose devant lui. Quelques pas en avant, il y avait une étendue de glace, une sorte de marais ou d'étang, et il y avait là, à moitié enfoncés, 10 ou 12 cadavres. Ils étaient presque complètement dévêtus et dépouillés. Lupi allait, penché et attentif de l'un à l'autre. Et à présent, l'on reconnaissait Olivier de la Marche et le prêtre, tandis qu'on allait et venait autour d'eux. Mais la vieille était déjà agenouillée dans la neige et gémissait et se penchait sur une large main dont les doigts écartés étaient tendus vers elle. Tous accoururent. Lupi, avec quelques domestiques, essaya de retourner le cadavre car il était couché sur la face. Mais le visage était pris dans la glace et lorsqu'on l'en retira, l'une de ses joues se pela, sèche et mince, et il apparut que l'autre avait été arrachée par des chiens ou des loups, et le tout avait été fendu par une grande blessure qui commençait à l'oreille, de sorte que l'on ne pouvait même plus parler d'un visage. L'un après l'autre, ils se retournèrent. Chacun croyait trouver derrière soi le Romain. Mais ils ne voyaient que le fou qui était accouru, mauvais et sanglant. Il tenait un manteau loin de lui et le secouait comme s'il devait en tomber quelque chose. Mais le manteau était vide. On commença donc à chercher des signes particuliers et il s'en trouva quelques-uns. On avait fait un feu et l'on lava le corps avec de l'eau chaude et du vin. La cicatrice du cou apparut, et les traces de 2 grands abcès. Le médecin ne doutait plus. Mais on compara encore autre chose. Louis XI avait trouvé quelques pas plus loin le cadavre du grand cheval noir Moreau que le duc avait monté le jour de Nancy. Il enfourcha le cadavre et laissa pendre ses jambes courtes. Le sang coulait de ses narines à sa bouche et l'on voyait qu'il le goûtait. L'un des domestiques rappela de l'autre côté qu'un ongle du pied gauche du duc avait été incarné. À présent, tous cherchaient cet ongle. Mais le fou gigotait comme si on l'avait chatouillé et criait « Ah, monseigneur, pardonne-leur de découvrir ainsi tes défauts les plus grossiers !» Les imbéciles qui ne veulent pas te reconnaître à mon long visage où apparaissent toutes tes vertus. » Le fou du duc était aussi le premier qui entra lorsque le cadavre fut dressé sur le lit. C'était dans la maison d'un certain Georges Marquis, personne n'aurait su dire pourquoi. Le drap mortuaire n'avait pas encore été étendu et il eut ainsi l'impression de tout. Le blanc du linceul et le cramoisi du manteau contrastaient durement avec les noirs du baldaquin et de la couche. En avant, des bottes à longues tiges écarlates pointaient avec de grands éperons dorés. Et que cela, là-haut, fût une tête, on ne pouvait plus le contester dès qu'on voyait la couronne. C'était une grande couronne ducale avec je ne sais quelle pierre. Louis XI allait et venait, et examinait tout de près. Il tâta même le satin, bien qu'il n'y entendît pas grand-chose. Ce devait être un satin de bonne qualité, peut-être un peu trop bon marché pour la maison de Bourgogne. Il recula encore une fois pour juger de l'ensemble. Les couleurs étaient singulièrement discontinues, à la lumière reflétée par la neige. Il grava chacune séparément dans sa mémoire. Bien habillé, reconnut-il enfin, peut-être un peu trop prononcé. La mort lui apparaissait comme un manieur de marionnettes qui a vite besoin d'un duc.